souhaite la bienvenue aussi à ceux qui nous visitent ici pour peut-être dans le temps des fêtes. Il y en a plusieurs qui vont ailleurs, mais il y en a qui viennent visiter. Alors, bienvenue parmi nous. Alors, notre prédicateur régulier, et, je ne sais pas s'il est ici, il était ici la semaine passée. Alors, cette semaine, c'est moi qui amène la prédication. La semaine prochaine, ça va être Dominique pour faire un peu de changement. On prend un texte un peu différent. On est dans le temps des fêtes. On a, plusieurs d'entre nous, lu la naissance de Jésus dans Matthieu, dans Luc. On l'a fait mercredi. Je sais que dans certains groupes maison, en tout cas, ils l'ont fait. Alors, on va prendre aussi un passage sur la naissance de Christ, mais un passage un peu différent. Parler de la réaction. Un petit peu plus à la naissance de Christ. Quel genre de réaction est-ce qu'on peut voir dans la parole? Je peux vous partager une expérience personnelle qui concerne deux jeunes hommes qui venaient d'un secteur rural puis qui sont déménagés en ville pour trouver un travail. Je peux vous dire que dans les années 40, là, ça se faisait pas mal. La mécanisation au niveau des fermes, les grandes familles, alors les garçons ne pouvaient pas tous demeurer sur la terre familiale. Alors plusieurs allaient en ville et ces deux jeunes hommes-là sont allés en ville, sont demeurés chez un parent qui était là. Et le parent a cherché à les encadrer, cherché à les diriger un petit peu. Et donc, il les a conseiller sur se trouver un travail, mais aussi avoir un métier ou une profession qui pourrait les bénéficier le restant de leur vie. Ensuite, quand ils ont commencé à travailler, le parent qui est un petit peu plus vieux, a commencé à vouloir leur montrer comment gérer les salaires qui entraient. Alors, il a ouvert un compte de banque pour chacun, puis il leur montrait comment prendre une partie de leur salaire. Il fallait qu'ils payent les dépenses et la pension, mais il en restait toujours un peu. Alors, il suggérait, au lieu de tout dépenser, de graduellement mettre un peu d'argent en économie. C'est un bon conseil. Il agissait un peu comme un père de famille envers ces deux jeunes hommes-là. Et parmi les deux jeunes hommes, il y en a un qui était bien ouvert aux conseils qu'il avait et réagissait correctement, suivait les conseils et voyait clairement que c'était pour son bien. Mais l'autre jeune homme ne voulait absolument pas suivre les conseils. Et même devant l'aide qu'il recevait, mettons, pour mettre certaines économies dans un compte de banque. Il a même accusé celui qui agissait comme un père d'avoir pris certains de ses argents et a tout sorti du compte de banque et a laissé. Ils ont continué à vivre chez cet homme, mais donc un suivait le conseil, l'autre réagissait différemment. Je vais revenir à ce qui est arrivé à ces deux jeunes hommes-là plus tard, mais la naissance de Christ, c'est tout un événement. Et comment est-ce que on va réagir devant la naissance de Christ? On a vu certainement dans les chants que la naissance a amené différentes réactions quand on regarde dans Matthieu et dans Luc, qui sont les deux évangiles qui contiennent pas mal de détails sur l'histoire de la naissance de Jésus. Les événements un petit peu avant, on a le nom des personnages, on a les anges qui apparaissent. Et on peut voir que la joie, l'espérance, la consolation, la paix, c'est la réaction de Zacharie. Dans sa prière, on le voit être reconnaissant. Il reconnaît que son fils qui vient de naître n'est pas la lumière, mais par contre, il reconnaît que Christ, que Dieu a répondu à sa promesse. Dans Luc chapitre 1, verset 76, c'est écrit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Une réaction de joie de la part de Zacharie. Si on voit au commentaire d'Élisabeth, lorsque Marie vient la visiter, là aussi, elle est, on voit que c'est une femme qui est reconnaissante. Et elle va dire dans Luc chapitre 1, verset 43, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » Et donc, reconnaît qu'il y a une grande joie à y avoir. On peut penser à la prière de Marie. Un petit peu plus loin, on voit l'ange qui apparaît, mais la prière de Marie, Luc 1, fin du verset 46. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Elle est contente, elle reconnaît qui elle est devant Dieu. C'était pas une personne qui était un personnage égal à Dieu, non. C'était une personne qui avait besoin d'un Sauveur et elle le reconnaît. Et à la réalisation que l'enfant qu'elle porte, qu'elle va porter, c'est le Fils de Dieu, celui qui va être le Sauveur de l'humanité. Elle s'en réjouit, n'est-ce pas? Et que dire des bergers? Des bergers, probablement les moins considérés parmi le peuple juif qui reçoivent une apparition d'un ange. Et là, ils décident d'aller à Bethléem. Et on les entend, quand ils s'en retournèrent, les bergers glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Beaucoup de vérité dans cela, mais ce qui ressort, c'est qu'ils ont entendu un message que les anges leur ont donné. Et ils sont allés voir un enfant et ils s'en retournent à leur brebis et glorifient et louent Dieu. Pas de doute, pas de questionnement sur cela. On voit en même temps qu'il y a crainte, réflexion sur l'événement. Et lorsque Jean-Baptiste va venir au monde, les gens vont suggérer de nommer l'enfant Zacharie, elle va dire non, c'est Jean. Zacharie recouvre la voix et ils savent que quelque chose d'étrange qui est arrivé. Mais on voit que c'est plus la crainte, une réflexion. Il n'y a pas une louange dans cela. Et quoi dire de personnages comme Hérode? Ou même les principaux sacrificateurs, lorsque les mages vont voir Hérode et lui demandent, mais où devait naître le roi? On voit plus loin dans l'histoire que son seul but, c'était d'éliminer un personnage qui pourrait lui enlever le statut de roi qu'il avait. Et ça a été sa préoccupation. Il va même envoyer son armée pour tuer un paquet d'enfants face à cela. Et les principaux sacrificateurs, lorsqu'on leur demande où l'enfant devait naître, l'Évangile nous rapporte pas qu'il y en a un seul qui est allé accompagner les anges, qui ont cru eux aussi que possiblement les mages parlaient du Messie qui avait été annoncé. Donc, une incrédulité. Eh bien, l'Évangile de Jean a un récit aussi de la naissance et On va utiliser ce texte-là ce matin au lieu de regarder les textes dans Matthieu et dans Luc. C'est un texte qui est un peu différent. Mentionne deux personnages seulement et même le personnage, l'un des personnages, on y fait référence comme la parole. Et c'est clair au verset 17 que la parole, eh bien, c'est le Fils de Dieu, l'enfant qui devait naître d'une vierge. C'est clair qu'il s'appelle Jésus-Christ parce qu'on le mentionne directement dans le verset 17. Mais c'est un texte où, dans les versets 10 à 12, on va parler de différentes réactions à la naissance de Jésus. Alors, on va passer un temps à lire ce passage-là, mais avant, courbons-nous, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, c'est un temps assez spécial qu'on a, un temps, oui, de vacances, mais plusieurs sont sur les routes, vont visiter la famille. Mais Seigneur, ce qu'on veut faire ce matin, c'est se rappeler la signification de la naissance et examiner nos propres cœurs à voir comment est-ce que nous, on réagit devant l'annonce de la naissance de Jésus. Je te demande, Seigneur Dieu, d'être avec moi, que je puisse dire les choses fidèlement selon ta parole et que tu sois avec chacune des personnes ici ce matin. Et Seigneur, on te demande d'être avec ceux qui ne sont pas ici ce matin, soit pour cause de maladie, pour différentes épreuves. Seigneur, que tu puisses les accompagner eux aussi. En nom de ton Fils. Amen. Alors, si vous allez dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, on va lire à partir des versets 6 jusqu'à 14. Il n'y a pas grande lumière ici, les gars, pour lire. Je ne sais pas si on est en économie d'énergie, mais mes yeux sont pas meilleurs qu'ils étaient à 20 ans. Et merci. Alors, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, on va considérer ce texte-là ce matin. Dans les premiers cinq versets qu'on n'a pas lus, je vous dirais, il vaut la peine quand même de relever l'enseignement qui en ressort d'une façon assez rapide. On voit dans les versets 1 et 2 que la parole qui fait référence à Jésus-Christ, comme j'ai mentionné à la fin du verset 17, elle n'a pas de commencement, donc elle a toujours existé. Cette parole où Jésus était avec Dieu et il était Dieu même. Donc, c'est une personne distincte de Dieu, ayant une relation intime avec Dieu. Et en même temps, il était Dieu, de la même nature que Dieu. Les œuvres et les paroles de Jésus étaient certainement celles d'un Dieu. Toute la création, verset 3, a été faite par elle. Donc, non seulement toute la création a été faite par elle, mais il ajoute au verset 3 que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une partie de la création qui a été faite par Jésus et une autre par quelqu'un d'autre. On voit que Jésus est la vie et la lumière. Une vie qui existait en elle-même, c'est pas une vie qu'on lui a donnée. Une vie que même il a donnée à la création. Et on voit qu'il est apparu dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas compris ou vaincu ou maîtrisé au verset 5. Les versets 6 à 8 nous parlent du récit de Jean-Baptiste, la raison pourquoi Jean est venu. Alors, il est clair dans les versets 6 à 8 que Jean est venu pour témoigner de la lumière qui devait venir. C'était un homme, Jean était envoyé par Dieu, le Seigneur aussi était envoyé par Dieu, Jésus était envoyé par Dieu, mais il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, un peu comme j'ai lu dans la prière de Zacharie. Jean était venu pour être un témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Et on arrive au verset 9, et le verset 9 nous dit que cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venu dans le monde. Cette lumière, c'est la vérité, elle est sainte, elle est venue en ce monde, faisant référence à l'incarnation du Fils de Dieu. Et elle est venue pour éclairer tout le monde, tout homme. L'objectif de l'incarnation, c'est que les êtres humains, les hommes, puissent obtenir la révélation de qui était Dieu. La révélation aussi qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Ça peut faire référence à la révélation générale qu'on voit dans Romains chapitre 1. Mais sûrement ça fait référence à la révélation telle que annoncée par les prophètes dans l'Ancien Testament, mais aussi la révélation du salut qu'on lit aujourd'hui, nous, par les évangiles. Et ceux qui ont lu aussi depuis ce temps-là l'Évangile. Pendant le temps des fêtes, on est dans un monde assez séculier. On mentionne un petit pourcentage des gens qui sont vraiment des croyants. J'ai trouvé étonnant pendant le temps des fêtes combien de chants à la radio, à la télévision, étaient des chants chrétiens qui faisaient mention de la naissance de Fils de Dieu. Donc, même si dans nos familles, dans nos écoles, il n'y a pas d'enseignement vraiment de qui est Dieu, et souvent je vais entendre les gens dire, aujourd'hui, si on présente l'Évangile à quelqu'un, ils ne savent même pas qui est Jésus. C'est peut-être vrai, mais quand même, quand on entend des chants de rédempteur, de Jésus-Christ à la radio, quand même le message est communiqué. Et je vous dirais que quand je regarde le verset 9, je vois dans cela quand même que les hommes n'auront pas d'excuses pour dire « moi, j'ai jamais entendu parler de cette histoire-là, de la naissance » d'un enfant nouveau-né. Cette lumière qui est la vérité, qui nous révèle tout le plan de Christ pour le rachat de l'humanité, eh bien, cette lumière est venue dans ce monde et elle a éclairé tout homme. Donc, personne ne peut dire non. Moi, je ne suis pas conscient de cela. Tous sont responsables d'une réaction. Et on va voir dans le texte qui suit qu'il y a trois réactions mentionnées dans le texte, et je vais vous en mentionner une autre qui vient de Matthieu. Mais la première réaction est au verset 10, et on voit que la lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Donc, ça fait encore référence à l'incarnation, son ministère, le ministère de Jésus sur terre. Mais on voit par ce verset que le Sauveur a été rejeté par une grande majorité de la race humaine. Était dans le monde, donc, fait référence à l'incarnation. Le monde a été fait par elle, et on a vu au verset 3 que tout a été fait par Jésus. Mais le monde ne l'a point connu. Le monde, troisième mention du monde, fait référence à une grande partie de la race humaine qui ont simplement abandonné, rejeté cet enfant, ce fils unique de Dieu qui était venu sur cette terre pour réconcilier l'humanité avec Dieu le Père. Ils ne l'ont pas accepté, c'est marqué, ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas connu comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Sauveur de l'humanité, et ils l'ont tout simplement rejeté. On peut penser dans la Bible différents exemples. Caïn, par exemple, qui pour moi est clairement le premier individu qui a préféré s'éloigner de Dieu, rejeter Dieu en totalité. Il a refusé de reconnaître son péché. Un peu plus loin dans Genèse, au chapitre 4, dans les versets 23 et 24, il y a un homme mentionné là, Lémec. Et Lémec est de la postérité de Caïn. Mais on voit qu'il est comme 7 ou 70 fois pire que Caïn. Et on voit donc comment la méchanceté a augmenté après Caïn dans sa postérité. Ils sont pas allés de mieux en mieux, ils sont allés de pire en pire. Et c'est intéressant, si vous allez voir le Genèse 4, 23, 24, qu'est-ce que les mecs ose dire, et il est fier de dire qu'il est bien, qu'il se venge bien plus souvent que Caïn se vengeait. Il est fier que sa méchanceté, que sa vengeance a augmenté. Certainement, jusqu'au déluge, toutes ces personnes-là, si on exclut Noé, ses fils, eh bien, ce sont des gens qui font partie du monde, qui ont rejeté Dieu, qui ont rejeté toute notion du péché. Les peuples qui existaient au temps d'Abraham et qui ont continué d'exister le long du peuple d'Israël étaient certainement faisant partie du monde qui ont abandonné, rejeté Dieu, rejeté toute notion de mal. Et quoi dire de Sodome et Gomorre? Qui ont été, eux aussi, faisant partie de ce monde qui ont rejeté la lumière. Et il y en a plusieurs aujourd'hui aussi, n'est-ce pas? Combien de personnes dans ce monde refusent toute notion d'un Dieu créateur et d'un Dieu à qui on doit rendre compte? Et même si on leur en parle, ils vont le refuser de toute pièce. Il va y avoir un deuxième groupe qui va rejeter cet enfant qui vient de naître. Et on le voit au verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Si le monde, d'une façon générale, l'a rejeté, dans le verset 10, eh bien, Jean mentionne que Christ a été rejeté par les siens. Et qui sont les siens? Eh bien, Christ était juif. Le peuple de Dieu était le peuple d'Israël, le peuple juif. Le Messie devait venir par le peuple juif. Il devait être de la postérité de David. Et ici, Jean mentionne comment le peuple juif l'a rejeté. On voit bien des exemples, quand on lit l'Ancien Testament, comment le peuple Même s'ils avaient vu de grandes choses accomplies par Dieu, si on fait juste penser à la mer Rouge que Dieu a ouvert, et quelques jours après qu'ils ont passé la mer Rouge, le peuple n'a pas confiance que Dieu est capable de les sauver de l'armée de Pharaon. Et là, ils commencent déjà à brasser Moïse et Aaron pour retourner à l'Égypte. Alors, on voit comment, à travers toute l'histoire du peuple juif, ils ont rejeté complètement Dieu et ses enseignements, ses promesses. Et dans Ésaïe 65, versets 2 et 3, on voit ceci, c'est écrit, « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. » Si quelqu'un, certains qui ont lu l'Ancien Testament, ça reflète à peu près ce qu'on voit dans l'histoire du peuple. Dans Jérémie chapitre 7, les versets 25 et 26, Jérémie encore, un prophète qui a été envoyé par Dieu pour reprendre, brasser le peuple afin qu'il se détourne de leur voie, va dire au verset 25, « Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin, mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. » Alors, ça date de depuis longtemps, bien avant la naissance, que le peuple juif a rejeté, comme ça, Dieu et ses promesses et le sauveur qu'il allait envoyer. Dans Néhémie, le chapitre 9, Néhémie nous donne un historique un petit peu, un sommaire de tout ce qui s'est passé. Au verset 16, il va dire, « Mais nos pères, Néhémie, le juif lui-même, il dit, « Nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements, parlant de Dieu. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. » Et il va faire référence à toutes les faveurs assez en détail dans le chapitre 9. « Ils raidirent leur cou et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. » Ça démontre à quel point le peuple juif a abandonné Dieu, ses promesses, son sauveur, abandonné la lumière, rejeté la lumière. Dans le reste de son évangile, Jean va décrire comment l'opposition des dirigeants juifs et lui va graduellement augmenter à mesure que Jésus révèle davantage qui il est, pourquoi il est venu. Les dirigeants juifs deviennent de plus en plus des ennemis de Jésus, jusqu'au point qu'ils vont le mettre à mort. On sait cela. Et ce qui les dérange surtout, c'est que Jésus se dit Dieu. Et certainement, si quelqu'un se disait Dieu et ne l'était pas, il méritait d'être tué, selon la loi juive. Mais ils ont complètement manqué le fait que cette personne, Jésus, qui était né au temps d'Hérode, qui avait eu ses commentaires, cette activité autour de sa naissance, eh bien que ses paroles et ses actions démontraient qu'il était Dieu et que Dieu lui-même témoignait qu'il était Dieu. Oui, c'est vrai que ce qu'ils attendaient comme Messie, c'était quelqu'un qui était pour venir comme un général et les libérer de l'oppression des Romains. Je comprends. Mais quand même, le Seigneur, à maintes reprises, a mentionné comment le Sauveur devait souffrir. Et on l'a vu accomplir cela. Ils l'ont, comme j'ai dit, crucifié, ils l'ont rejeté. Donc, Christ a été rejeté par le sien. Rejeté par le monde, en général, rejeté par les siens. Et c'est ce message que Jean indique ici, à quel point Christ a été rejeté. Maintenant, après avoir été abandonné par le monde, par les siens, à la fin de son ministère, Jésus sera abandonné par son Père. Quand Christ va être sur la croix et qu'il va porter le péché de toute l'humanité, passé, présent et futur, on voit dans Matthieu 27, 46, que Dieu, son Père, l'a abandonné pour satisfaire la justice, signe d'amour immense. Alors, on lit au verset 46, « Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Abandonné par le monde, abandonné par les siens, et maintenant abandonné par son Père céleste, dans le but d'accomplir la mission qu'il avait. C'est la seule fois que Jésus ne s'adresse pas à Dieu en disant « Père ». C'est une indication que, à ce moment-là, en tout cas, le lien de fils et père était brisé. Après avoir eu une intimité qu'il nous décrit dans Jean 4, dans Jean 5 et à bien d'autres endroits aussi, on voit que la relation de Dieu-Père vient d'être brisée. Et Jésus ressent une perte de communion, une séparation avec son Père, et cela l'attriste énormément. Il est en agonie. Certainement que les souffrances qu'il a subies étaient grandes, mais je vous dirais que la pensée d'être séparé de son Père, de ne pas avoir de communion, le temps qu'il mourait sur la croix, a sûrement été une grande agonie. Cette idée d'être abandonné, rejeté. Certainement, c'est aussi un moment dans lequel Dieu exprime son amour pour nous. Romains 5, 8 dit, « Dieu prouve son amour envers moi, en ce que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Je n'étais pas un ami de Dieu. Je n'étais pas un fan de Dieu. J'étais en pleine rébellion. Et à ce moment-là, Christ porte mes péchés, vos péchés, les péchés de toute l'humanité. Et là, il est séparé du Père, mais satisfait la justice de Dieu que moi, donc me libère de la condamnation et de la colère. Alors, quand on pense à la naissance de Jésus, on doit penser aussi à l'abandon, au rejet qu'il a subi, le monde, les siens, même Dieu le Père à la fin de son ministère. Mais il y a le verset 12 et 13, et c'est une autre réaction possible à la naissance de Jésus. Et on va le lire encore. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, il y en a comme Zacharie, Marie, je dirais Joseph, les bergers, les mages, Siméon, Anne, que quand ils ont vu cet enfant, ils ont vu l'accomplissement de la promesse qui avait été faite dans l'Ancien Testament, que Dieu enverrait son Fils unique pour agir comme sauveur. Et ils ont cru que la parole que Jésus a été faite chair. Et de même que tous les autres croyants qui ont précédé l'ère de Jésus et ceux qui sont depuis là, ceux qui réagissent à la naissance de Jésus par la foi, eh bien, ceux-là reçoivent le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Jean s'assure de nous rappeler que ce miracle, selon le verset 13, eh bien, ce n'est pas simplement une décision humaine. Certainement, l'homme doit croire, doit suivre, mais il est nécessaire aussi que Dieu opère son œuvre dans le cœur afin que la personne puisse croire. Et le verset 13 veut nous rappeler cela. Donc, il y a la part de l'homme de croire, de suivre Jésus, mais il y a la part de Dieu qui est essentielle et nécessaire dans tout cela. Alors, si je reviens à mon histoire du début, les deux jeunes hommes ont passé maintenant plus de 40 ans. Il est décédé, il avait presque 80. C'était celui qui laissait l'homme plus âgé le conseiller. Il a suivi les conseils. Il a poursuivi, est allé se chercher un métier, il s'est marié. Il a eu une vie, je dirais, dans notre monde, une vie ordonnée. Il a été généreux de son temps. Il a servi abondamment dans la parmi les gens, parmi son entourage et certainement parmi ses enfants et est décédé vers 80 ans. L'autre a eu différents travaux, ne pouvait jamais garder son travail. Les patrons étaient toujours trop exigeants, injustes à son égard. Et donc, soit qu'on le congédiait ou bien il partait en colère contre ses patrons. A toujours eu un travail, salaire minimum, une vie assez désordonnée, des difficultés financières. Pendant toute sa vie, un mariage assez difficile. L'histoire de ces deux jeunes hommes n'est pas si importante que cela. Parce que leur décision, en fin de compte, n'avait pas une portée éternelle. Notre vie sur terre est comme une vapeur. Alors, si je fais prends une décision qui a seulement une portée ici sur terre, je vous dirais, elle n'est pas si importante que cela. Elle est secondaire. Mais je veux quand même vous montrer comment la réaction a des conséquences. Et je voudrais pas minimiser non plus aux jeunes qui sont ici, que quand vous êtes des ados, des jeunes adultes, votre travail, c'est de vous préparer pour le reste de votre vie. Ce n'est pas simplement de vous amuser et de faire les choses qui ne profiteront à rien non plus. Alors, ça a une importance. Bien vous préparer va vous aider à participer davantage à l'œuvre du Seigneur avec les talents, votre discipline et même votre argent. Alors, mais la réaction à la naissance de notre Sauveur, celle-là, elle a une conséquence éternelle. La réaction à la naissance de Jésus peut faire une différence pour l'éternité. La naissance de Jésus, la parole qui a été faite chair et a habité parmi nous, amène à bien différentes réactions. Il y a eu deux réactions mentionnées ici, dans lesquelles on voit qu'il y a le rejet complet, soit par le monde, le rejet même par le peuple juif du Sauveur qui était issu du peuple juif. La troisième réaction manifeste la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, pour l'humanité, mais aussi manifeste sa justice. Le péché a une conséquence, a un prix. Et ce prix, Dieu et Christ ont décidé de le payer à notre place et nous y avons droit si nous mettons notre confiance en Dieu. Et dans cette situation-là, la mort de Christ efface notre condamnation et nous réconcilie avec Dieu le Père. Le texte au verset 12 qu'on a lu, elle dit qu'on devient des enfants de Dieu et que cela ne n'est pas de notre propre essor, mais de l'essor de Dieu. Il y a un verset, Jean 3,16, que j'aimerais qui n'est pas tellement loin de Jean 1, qui nous parle de cela, et vous le connaissez bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La naissance de Christ nous parle de cela ici. Donc, une réaction, une bonne réaction comme celle qu'on a vue dans le chapitre 1, verset 12, c'est de chercher, de croire et d'éviter la condamnation, mais d'avoir la vie éternelle. Par contre, l'autre réaction, la réaction du monde, la réaction du peuple juif en général, parce qu'il y en a quand même certains parmi le peuple juif qui ont cru que cet enfant était le Fils unique de Dieu, le Sauveur, envoyé par Dieu. Mais celui, et on voit au verset 18 au début que celui qui croit n'est point jugé. Par contre, le verset 18 et 19 nous dit « Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré leur passion, leur convoitise, le péché, à la vérité, à la sainteté, qui était représentée par Jésus. Et il rajoute dans ce verset-là, que la raison qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière, c'est parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Un peu plus loin, dans le troisième chapitre, on voit un résumé, si vous voulez, des deux réactions possibles devant la naissance de notre Sauveur. Et le verset 36 dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La naissance de Christ nous amène à apprendre, à avoir des réactions devant l'événement qui est arrivé. Différentes réactions sont possibles. Celle que plusieurs ont pris déjà ici ce matin, je suis conscient, c'est celle de croire que quand que cet enfant est né, selon le récit, dans Luc, dans Matthieu, et selon ce que Jean dit, quand la parole a été faite chair, eh bien, c'était Dieu qui accomplissait son plan pour sauver l'humanité. Plusieurs d'entre nous ont cette certitude, cette confirmation. Et si vous l'avez, considérez que c'est un acte d'amour de mentionner à ceux qui n'ont pas cette conviction-là la condamnation qui les atteint. C'est un acte d'amour de notre part de le faire à leur égard. Mais il y en a ici aussi, je suis certain, qui sont ici ce matin, et je pense, j'ai eu des enfants, donc je pense à des personnes qui sont peut-être invitées, ou à des enfants de familles qui sont de l'Église, qui ont été enseignés, mais ils ont beaucoup d'influence aussi, d'amis à l'école, beaucoup d'influence. On a eu à peine d'ouvrir un journal, de regarder la publicité. Et il n'y a pas grand appui pour encourager les jeunes de croire que la naissance de Jésus, c'était la naissance d'un Sauveur pour l'humanité. Et que de prendre une décision pour lui avait une portée éternelle. Soit que la colère de Dieu demeure sur moi, si je refuse, si je rejette, comme le monde, comme le peuple juif, ou bien une vie éternelle, si je mets ma foi en lui. Alors, c'est une décision qui a une portée assez importante. Temps de Noël, oui, mais c'est un temps où on doit examiner qu'est-ce qui arrive à Noël et pourquoi ça arrive. Même le mot Noël, je vous dirais, c'est un mot qui a moins de signification de simplement faire référence à la naissance de Christ. Possiblement que la naissance de Christ n'a pas été le 25 décembre. Je dirais, c'est pas juste possiblement, c'est assez certain que c'est pas nécessairement le 25 décembre. Mais on sait pas quand ça a eu lieu vraiment. Mais on veut souligner ce qui est arrivé. Et Dieu est intervenu dans l'histoire de l'humanité. Il a accompli son plan qu'il avait mis en œuvre dès Genèse 1, et son Fils venait par l'incarnation prendre la forme d'un homme afin de réconcilier l'humanité avec son Père. Courbons-nous, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, quel amour tu as pu avoir envers nous. Si on pense, il me semble que cet événement de la naissance afin d'arriver à la croix et d'être séparé du Père ressemble de beaucoup. Est-ce que Abraham et Isaac ont fait face quand tu as demandé à Abraham de sacrifier son propre fils? Et Seigneur, tu ne l'as pas laissé continuer, tu l'as arrêté. Mais dans le cas de Jésus-Christ, il est né dans un berceau, dans l'humilité. Et Seigneur, plusieurs ont noté la naissance de cet enfant. Plusieurs. Mais c'était afin d'aller jusqu'à la croix. Et là, Seigneur, ta main n'a pas épargné Jésus à la croix. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout afin d'accomplir parfaitement ton plan de rédemption. Seigneur, merci de nous avoir donné le pouvoir de croire et de devenir un de tes enfants. Et que ceux qui n'ont pas fait ce choix-là ce matin, Seigneur, se questionnent sur la réaction qu'ils ont devant la naissance de cet enfant qu'on commémore à ce temps de l'année. En ton Fils. Amen.